Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
De midi 30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letami.info.
Sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc vous voyez bien la liberté là, c'est une
liberté plus que surveillée. Et à cette époque-là, donc on connaît la date du procès qui a été fixée aujourd'hui, 31 mai. Donc depuis 10h30, Eleonora, Théo et Bastien sont dans la salle d'audience avec leurs avocats. Vous avez tous lu dans la presse locale que, soi-disant, le procès s'est reporté, etc. Vous voyez bien, le procès n'est pas reporté puisqu'ils sont là, ici même, en train de défendre les principes qui les ont amenés à participer à cette marche, à savoir le principe de solidarité, de fraternité. Le procureur a communiqué à la presse que sans doute il demanderait le renvoi du procès, et peut-être les avocats aussi, on ne sait pas, puisqu'il a été posé une question au Conseil constitutionnel sur est-ce que le délit de solidarité est compatible avec notre devise liberté, égalité, fraternité. Donc pour vous faire un petit peu un point juridique, je vais vous lire un petit peu de quoi il s'agit précisément. C'est la Cour de cassation, donc qui jugeait Cédric Héroux en cassation, qui a décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité, qui porte sur les deux articles du Code de l'entrée et du séjour qui régissent ce délit de solidarité. Le délit de solidarité, il faut le savoir, il n'existe pas dans la loi française. C'est nous qui lui avons donné ce nom, les militants, les justices. En fait, le délit de solidarité, c'est un article qui prévoit que toutes les personnes qui aident les migrants peuvent être suivies. Je vous lis l'article, comme ça c'est bien clair dans votre tête. Toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Sera puni de la même peine celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État parti à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France. Ça nous donne une dimension un petit peu européenne. La question prioritaire de continuité posée le 11 mai 2018 par le Conseil constitutionnel interroge cette disposition de l'entrée du séjour, en ce que d'une part, elle réprime le fait pour toute personne d'avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, pour des actes purement humanitaires qui n'ont donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, et d'autre part, elle ne prévoit une petite extension qu'au titre du seul délit d'être au séjour irrégulier d'un étranger en France, et non pour l'aide à l'entrée et à la circulation. La question posée est ainsi posée. Dès lors, le législateur a-t-il porté atteinte au principe constitutionnel de fraternité, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice garantie respectivement par les articles 8 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Cour relève le caractère nouveau de cette question, une des conditions de sa transmission au Conseil constitutionnel. En ce qu'elle questionne la fraternité. La fraternité qualifiée d'idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. La Cour de cassation considère donc cette question comme nouvelle, car à son tour, le principe constitutionnel de fraternité n'a encore jamais été examiné par le Conseil constitutionnel. C'est vous dire qu'on part de loin. Depuis des années et des années, le délit de solidarité existe et personne n'a encore interrogé notre Constitution sur ce point. Je ne sais pas si il faut se faire beaucoup d'illusions ou pas sur la réponse que donnera le Conseil constitutionnel quand on sait par qui il est constitué selon nos lois. C'est des anciens présidents, des personnes qui sont quand même bien partie prenante dans tout ce système répressif. Mis en place. Ceci dit, le Conseil constitutionnel rendra sa décision au mois d'août, donc vraisemblablement le débat sur le fond aujourd'hui sera reporté après cette date. Ceci dit, aujourd'hui, il reste aux avocats à exiger la liberté pour Eleonora, Théo et Bastien. Aujourd'hui, ils ne sont pas libres de leur mouvement.
Aujourd'hui, ces jeunes ont des examens à passer dans leur pays respectif. Et si le contrôle judiciaire n'est pas levé, ils ne pourront pas reprendre le cours de leur vie normale. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit fort, qu'on se mobilise pour que ces trois jeunes retrouvent le plein exercice de leur liberté.
Donc, les trois, Éléonora, Théo et Bastien, sont entièrement libres de leurs actes. Et toutes les contraintes qui pesaient sur leur vie de tous les jours sont levées, y compris le fait de nous parler aux médias, etc. L'information capitale, c'est que le procès est reporté sur le fond au 8 novembre. Et j'ai une information capitale, c'est que ce jour-là, il sera beau. Et donc, on se retrouvera tous le 8 novembre et on sera deux ou trois fois plus nombreux.
Ce procès est avant tout d'ordre politique. Et pas seulement juridique comme les médias le procureur. Ça montre bien la mobilisation de tous les médias qui sont là et tous les autres médias. Nous ne sommes pas juristes, mais nous vivons dans ce monde et pour nous, il est important de mettre du temps. Dans le loi, quand vous mettez du temps, le reflet de l'hypocrisie ambiante. Elle évite de faire face au problème de fond qui est du fonctionnement de cette société qui est techno-industrielle, dont la crise migratoire est une conséquence. Il y a des gens qui migrent et les raisons sont de plus en plus visibles. Le réchauffement climatique, la misère économique, les gouvernements totalitaires, des guerres de plus en plus nombreuses, dans lesquelles l'Occident a une grande part de responsabilité. Il y a la volonté d'éviter la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que l'Union européenne, comment les États ils font pour gérer ça, quoi. Et en fait, il y a vraiment une volonté d'éviter une vraie réponse. Donc, d'un côté, ils criminalisent les réfugiés, ce sont les personnes qui sont victimes. Qui sont victimes. Et pour moi, je trouve que le délit de ces personnes, enfin, il n'y a rien d'autre que le juge de justice, enfin, ils sont condamnés pour ne pas être mis en avant. La deuxième raison, c'est aussi la volonté de criminaliser cette solidarité. Et ceci en jeu, ce qui nous est reproché. De considérer les gens qui aident ces personnes en difficulté hors la loi, en ignorant ces gens qui rentrent la risque de questionner ces états de fait. Les gens qui ne veulent pas laisser ces personnes prendre la risque de mourir de froid dans la neige, on les met en prison, c'est n'importe quoi. Ça questionne la légitimité d'un État qui, pour assurer sa pérennité, est prêt à criminaliser les personnes innocentes. Autant des réfugiés que des gens qui les aident. Il y a un acharnement juridique sur la solidarité, et nous trouvons que ça, c'est de la violence. Et cette violence est aussi avant tout au sein de ce que l'État met en place, au sein des dispositifs qu'on mise. La militarisation, la chasse à l'homme, le contrôle aux faciès, et à travers un discours visant à déshumaniser les migrants, et de déclarer, par exemple, comme l'a fait le procureur, de dire que la mort d'une réfugiée, en fait, c'est pas une disparition en tout temps. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, pour régler le problème, comment réagit l'État ? Il dit qu'il est plus facile d'enfermer les migrants, même s'ils n'ont rien fait de mal, et d'enfermer les gens qui les soutiennent. C'est une honte, c'est n'importe quoi. Et surtout, c'est une façon d'éviter de régler le problème. Notre réponse à nous,
d'être et de rester solidaire et humain. Parce que avant tout, c'est une chose. Si on est militant et qu'on défend les idéaux, c'est pour être proche de l'homme et de la nature. Il n'y a rien de plus fort que l'entraide dans le monde qui va à volo. Je pense qu'il faut qu'on reste solidaire. Merci à vous.
Maintenant, ceux qui ont réagi, le public et les histoires racontent pour eux, je demande d'accueillir le comité de soutien des trois orientants de Genève. Anna.
On savait déjà depuis le début que ce procès était politique, c'était évident au vu de la mobilisation qu'il y a eu, qu'il y a toujours et qu'il y a eu au travers des autres inculpations et poursuites qui ont touché d'autres personnes depuis longtemps. Et bien que le procureur a essayé d'éviter ce procès politique en disant que ce tribunal n'était pas un lieu de débat politique ni idéologique, il s'est pris à son propre piège en partant aussi dans des considérations sentimentalistes qui franchement nous ont mis très en colère, nous ont vraiment allumés. Et du coup, il était éminemment politique ce projet, bien évidemment, malgré que finalement ils ont essayé de garder cette question de fond un peu muselée en restant sur le débat du contrôle judiciaire et de la QPC. Et en ne laissant pas la parole à nos trois camarades en fin de conseil, je suis pour ça aussi qu'ils prennent la parole à ce moment-là.
Et ça, c'est pour finir, un élément qu'on aimerait aussi relever sur la discrimination qui faisait, enfin l'argument de discrimination qui faisait le procureur, alors qu'il était un peu victime, mais tout ce qui est en train de se passer, que voilà, maintenant, toute une mobilisation empêchait. Voilà, il disait de travailler de façon sereine et qu'il aimerait retrouver les moments où c'était plus ou moins exact, mais voilà, quand voilà, le ministère public, c'était quelque chose de juste il faisait bon vivre, bon travailler, mais voilà, ça me dérange, je ne sais pas vraiment pourquoi. Voilà, mais il y a vraiment largement une situation, voilà, où on le comparait avec eux, avec les gens qui sont de nos états, donc c'est un refus total d'entendre un peu les accusations, enfin voilà, quand on pense à son égard. Oui, c'est pour la victime, c'est vraiment la victime de tout ce qui se passe, voilà, et c'est pour ça qu'il vient, et il a répété par année en mois, donc c'est sans négatif, c'est une obligation. C'est pour nous, évidemment, enfin, vu que c'est une stratégie, comme une vidéo qui l'utilise, nous, on va, en tout cas, pas réagir en se démobilisant, c'est évident que non, pour nous, la lutte, elle continue, la mobilisation aussi, pour que ce soit personne, mais essayer avant tout, la cause initiale, c'est quand même les personnes à l'église, mais voilà, donc, on se voit en tout cas, on se voit à toutes les luttes d'accueil, voilà.
Prise de parole de 3 des 4 avocats.
C'est la parole d'avocat, mais comment empêcher la parole de militant de se mélanger à la parole d'avocat d'abord? Ce procès, c'est un procès totalement politique. Qu'est-ce que c'est que cette idée extraordinaire de dire il n'y a pas de politique? Non, le droit dans cette affaire, c'est de la politique. Le droit, c'est de la politique. Et d'ailleurs, ce que nous demandons, c'est de la politique. Peut-être que certains ont du mal à comprendre. Donc, poser la question prioritaire de constitutionnalité, ça veut dire que nous estimons qu'au-dessus des lois, au-dessus des comportements actuels, de l'utilisation des lois, il y a des principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux sur lesquels nous nous fondons, certes, la nécessité des peines, ça veut se fonder sur quoi? Sur deux textes essentiellement. En principe, le principe de fraternité, le principe de nécessité des droits, c'est fondé sur deux textes. Le premier, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été votée par l'Assemblée constituante moins de 15 jours après la prise de la Bastille. Ce texte est un texte qui, aujourd'hui, c'est un texte totalement révolutionnaire, même si certains disent que c'est un texte bourgeois pour aller plus loin, ça s'en fiche. C'est un texte totalement révolutionnaire pour protéger les libertés. Le deuxième texte sur lequel on se fonde, c'est le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle, et qui a été fait par le Conseil national de la Résistance. C'est pas rien. C'est-à-dire que ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de dire que la loi française et son application doivent se soumettre d'abord à ces principes, dont je rappelle que ce sont les principes révolutionnaires, même s'ils sont dans notre Constitution actuelle. Le deuxième, c'est que le problème de cette acte, de ce qui a été fait, de cette manifestation, c'est que les gens, les trois qui sont poursuivis, sont trois qui sont pris au hasard. Ils sont pris au hasard, ils étaient 100, ils leur connaissent eux-mêmes. Ils étaient 100, on en prend trois au hasard, qu'on trouve dans la rue, comme ça, on devait être exécuté. Il est 97 ans, ça bien entendu. Bon. Alors, ce dont je suis content, c'est que le tribunal de Gap est reconnu qu'on lui demandait de poursuivre des gens en vertu d'un texte dont la constitution et dont la constitutionnalité était contestable. Ça veut dire la constitutionnalité, ça veut dire la compatibilité avec nos principes fondamentaux. Moi, ça veut dire quelque chose, je vais faire un aveu, et bon, mais comme certains, je crois à la société démocratique. Bon. Et je crois effectivement que les principes du droit sont des principes essentiels. Les principes du droit, c'est essentiellement politique. Et lorsqu'aujourd'hui, nous obtenons deux choses. D'une part, que la question prioritaire de constitutionnalité soit levée, et d'autre part, que malgré les réquisitions du procureur de la République, le contrôle judiciaire soit levé. Ça ne veut pas dire que nous avons encore gagné cette affaire. Elle va revenir ici le 8 novembre. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, ils trouveront bien le moyen de la faire revenir. Et moi, je ne se pas à ce point. Donc, si sur l'application du droit, sur le fait que je crime qui n'ont eu aucune impression, même en l'état actuel de la loi. C'est ça le problème. Et ça, c'est politique. Fondamentalement politique, idéologique. Lorsque le procureur dit qu'il ne sait pas du politique et d'idéologie, ce n'est pas vrai. Nous reviendrons ici le 8 novembre, croyez-le, et moi je pense qu'on va l'obtenir, et il faut l'obtenir pour des raisons politiques et juridiques à la fois mélangées. Il faut obtenir que ces gens-là soient relaxés, que nos trois militants soient relaxés. Voilà ce que nous avons fait depuis longtemps. Je m'aperçois que je suis le deuxième avocat, mâle et blanc, comme dirait l'autre, à prendre la parole alors que nous étions quatre, et que comme l'a dit M. Wesson, c'est à elle aussi de prendre la parole.
Merci beaucoup, Maître Leclerc. En plus, il fait les transitions à ma place, alors Maître Forbach, Maître Germoun, si vous voulez vous approcher, ça serait parfait.
Mettre une touche féminine peut-être à ces prises de parole et à ce débat. Je reprendrai vraiment la citation d'Antoine de Saint-Exupéry où la démocratie est une fraternité. Et je pense qu'aujourd'hui, vous la représentez avec votre mobilisation, votre solidarité, votre combat et auquel nous, avocats, aussi, on participe. Je suis vraiment très contente qu'on ait pu être entendu par le tribunal correctionnel de Gap, parce que la loi sur laquelle les poursuites sont fondées doit être remis en cause et aujourd'hui remis en cause au regard des grands principes, des hommes grands principes auxquels je tiens et auxquels tout le monde tient, qui est le principe de fraternité. Et la levée du contrôle judiciaire et aussi la manifestation, à mon sens, de la remise en cause de cette répression qui s'est abattu sur eux à partir du 24 avril et c'est très satisfaisant. Après, je rejoindrai les propos de Maître Leclerc, qui nous fait une victoire. La victoire, j'espère qu'on en va se battre pour l'avoir le 8 novembre 2018 avec cette décision du Conseil constitutionnel, mais aussi avec le fond de ce dossier. À mon sens, ne justifie nullement que trois personnes soient pénalisées et soient enseignées pour l'infraction pour leur reproche. Donc, je vous battrai pour entendre, je pense, pour la relâche.
Bonjour. Les mots ont été lâchés par Maître Leclerc, donc avocat mâle blanc. J'ai jamais voulu le faire, mais peut-être la prise de parole d'un avocat racisé. Ce sont les termes mêmes de Théo et Bachet dans leur conférence de presse. On fait état des privilèges qu'ils ressentaient en tant que blanc. Ça semble important de mener ces discussions-là aujourd'hui. Ce sont des termes extrêmement importants. Juste trois mots rapides. Théo, Bastien et Léonora. Théo, Bastien et Léonora. Ils ont participé à cette marche. Ils ont commis un acte de solidarité. Tous les bénévoles de Briançon, qui depuis des mois, commettent des délits de solidarité. Donc merci d'être venus en bande organisée soutenir ce délit de solidarité.
Prise de parole d'une syndicaliste de l'Union syndicale solidaire qui s'est mise en grève pour l'occasion.
Et en fait, ben on est là et il y a eu un appel à la grève parce qu'on dit qu'effectivement, on est tous l'Union syndicale et l'Union délinquante solidaire en bande organisée, tout simplement. Voilà.
Ah ben bravo.
Donc ça ne va pas durer très longtemps en fait. Voilà, on voulait un peu échanger avec vous et vous nous dire quelque chose. Pour vous dire voilà, que nous sommes tous des immigrés, il n'y a que le lieu de naissance qui change. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir Bastien, Théo et Léonora, trois jeunes accusés d'un délit de résistance. Résistance à un mouvement fasciste, résistance citoyenne contre la peur de l'autre, résistance contre l'égoïsme de notre société. Dans une Europe ouverte, certains ferment les frontières et laissent mourir des hommes, des femmes au milieu de nos montagnes. Des hommes et femmes qui fuient la guerre, les persécutions ou la misère, la France, pays des droits de l'homme, renie ses traditions ancestrales d'accueil. En s'opposant à la fermeture illégale de la frontière avec l'Italie par un groupuscule d'extrême droite, ces jeunes ont commis un acte de résistance. Avons-nous oublié qu'en 1945, les passeurs qui ont sauvé les Juifs en les menant en Italie ou en Suisse à travers la montagne ont été décorés? Les trois de Briançon voulaient sauver des hommes, des femmes, des étrangers.
Témoignage du membre du collectif Notav dans le Val de Susa.
Je représente le mouvement Notav de la Val de Susa et je voulais simplement donner la solidarité à Eleonora et Bastian. L'unica cosa, ci sono già dette tutte le cose importanti, io voglio solo puntualizzare questo riguardo ai migranti, siamo noi colpevoli di queste migrazioni, perché siamo noi occidentali che abbiamo sfruttato tutte le loro risorse, abbiamo fatto le guerre e attualmente li organizziamo per farci la guerra tra di loro, per cui quando vengono qua allora, a tutta la solidarietà da parte del movimento Notav, del movimento della Val de Suse, donc la solidarietà per Eleonora, Bastien, Théo. Et elle dit che la plupart des choses ont déjà été dites, mais elle voudrait rajouter une chose. C'est qu'il faut qu'on soit bien conscient que, en fait, ces migrants, ils sont là à cause de nous, parce que c'est nous qui, pendant des siècles, avons organisé l'exploitation de leur territoire, et c'est nous qui, encore aujourd'hui, organisons, leur avons fait la guerre, et encore aujourd'hui, organisons les guerres entre eux. Et quand ils viennent da noi, ils font des grands murs. Et après, quand ils viennent ici, on fait des murs.
Grazie mille.
Témoignage d'une mère solidaire de ses enfants, criminalisés pour leur engagement politique.
Mes deux fils, Antonin et Angèle, ont été arrêtés. J'étais en prison à la suite de l'affaire du Quai Valmy à Paris en mars des manifestations contre la loi travail en 2016. J'ai dû faire face dans cette affaire à un montage politique, médiatique, policier et judiciaire pour monter tout un dossier contre mes enfants qui sont des militants antifascistes. Et le gouvernement Val, qui est 15 ans à ce moment-là, était aux abois sur un mouvement social qui durait, qui traînait. Ça faisait 4 mois que les manifestations avaient lieu et ils avaient décidé de taper fort en arrêtant ce jour-là des jeunes de manière ciblée,
sur un renseignement, des renseignements généraux, et ils les ont arrêtés à mon domicile bien après la manifestation, avec deux de leurs camarades, sans aucun élément de preuve, et ils ont constitué ensuite un dossier à partir de baskets, de jeans et de blousons noirs portés ce jour-là par l'ensemble des manifestants. Dans le cadre de la lutte que j'ai eu à mener pour libérer mon fils Antonin, qui est resté 10 mois en détention provisoire, Angèle, qui est restée 1 mois et demi en détention provisoire, alors même que la juge, Lucie Berthézen, savait très bien qu'il n'était responsable d'aucun des faits qui lui étaient reprochés, puisqu'elle avait pu faire arrêter un autre proche de Nice qui avait avoué les faits qui étaient reprochés à Angèle. Angèle, malgré tout, a eu un contrôle judiciaire terrible pendant 2 ans. Avec un éloignement de Paris, l'interdiction de rentrer à mon domicile jusqu'à son procès. Et donc, il nous a fallu nous battre contre l'ensemble de ces institutions extrêmement répressives. J'ai connu la prison aussi, qui est une autre institution répressive dans laquelle les familles sont totalement abandonnées. Dans cette lutte-là, j'ai rencontré Agnès Méric, la mère de Clément Méric, qui est mort il y a 5 ans, qui est sous les coups des fascistes à Paris. Clément et Antonin étaient des amis. Ils avaient 18 ans quand les faits se sont passés. Agnès, aujourd'hui, va devoir faire face à un procès qu'elle attend toujours. Et nous avons décidé toutes les deux que nous, les parents, nous ne pouvons plus continuer à rester dans le silence du deuil pour Agnès et pour moi dans le silence de l'humiliation des parloirs de prison. Nous avons décidé que nous avions une parole à porter. La parole, pas la parole de nos enfants, ils sont suffisamment autonomes pour porter leur lutte, mais en tous les cas, la nôtre, celle des parents qui avaient élevé leurs enfants dans des valeurs de solidarité, de liberté, d'exprimer un projet pour leur une vision du monde qu'ils avaient envie de défendre, et nous les avons encouragés dans leur militantisme. Jamais nous n'aurions imaginé que nos enfants puissent mourir ou être jetés en prison pour cela. Aujourd'hui, nous avons créé ce collectif il y a une semaine, il est tout récent. Jamais non plus nous n'aurions cru qu'au moment où nous créions ce collectif, il allait tomber dans une actualité terrible. À Paris, des centaines de jeunes sont systématiquement arrêtés après toutes les manifestations, placés en garde à vue et jetés en prison. Exactement. Et donc, face à cette répression qui se systématise, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de criminaliser l'ensemble des luttes en mettant en garde à vue toutes les personnes qu'ils trouvent sous leur main, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et en les jetant en prison. Je suis en contact en ce moment avec de nombreuses familles qui sont dans le plus grand désemparement parce que ils sont sans nouvelles de leurs enfants qui sont en prison. Et nous avons décidé que nous avions une parole à porter, notre propre parole, celle des parents qui n'avaient pas imaginé un seul instant que leurs enfants pourraient être réprimés de cette manière-là dans le cadre de leur militantisme. Nous sommes venus aujourd'hui parce qu'il nous paraissait important de défendre et de soutenir les familles d'Eléonora, Bastien et Théo, parce que là aussi, nous sommes scandalisés de voir que la police laisse passer sans lutter génération identitaire, qui prend des prérogatives de puissance publique en intervenant directement contre les migrants, et que par contre, les jeunes qui ont décidé de défendre les migrants, de les aider, de les soutenir de quelque manière que ce soit, sont eux arrêtés et jetés en prison. Il y a un renversement de nos valeurs démocratiques, démocratiques et des valeurs républicaines, et en tous les cas, il nous faut dénoncer ce système, il nous faut dénoncer cette criminalisation systématique du militantisme.
Merci beaucoup.
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook collectif des mères solidaires, et puis on a un mail mères-solidaires@rizov.net. Vous pouvez prendre contact avec nous, diffuser cette information auprès des familles, parce que je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux aujourd'hui à dénoncer ce qui se passe en France, mais pas qu'en France,
dans l'ensemble de l'Europe.
Merci beaucoup.
Et je vous invite, si vous pouvez nous rejoindre également, dès samedi prochain, il y aura la marche commémorative pour la mort de Clémence, 5 ans déjà, à Paris. On partira de la place Gambetta jusqu'à République pour rejoindre ensuite la grande manifestation pour les migrants et contre la loi Colomb, qui elle démarrera à 14h et on pourra rejoindre cette manifestation et faire converger nos luttes, c'est important.
Voilà, je m'appelle Georges Guimpel, je suis juif, je suis membre de l'Union juive française pour la paix, qui est la seule association juive française antisioniste. Donc mon travail principal est de dénoncer la politique israélienne, de dénoncer le CRIF et de dénoncer... et de dénoncer l'utilisation éhontée de notre histoire pour reproduire la même chose et soutenir la même chose que c'est le fait qui se fait sur ce qui se passe en France. Ma carte de visite est l'explique pourquoi nous sommes là. Je suis enfant caché, j'ai 81 ans, et pendant la guerre, j'ai bénéficié de la solidarité de gens qu'aujourd'hui, contre notre volonté, parce que c'est une terminologie israélienne, on appelle les justes. Et il me semble totalement inacceptable que d'un côté on prétende tardivement honorer les justes et que parallèlement on commence à criminaliser de nouveau les gens qui ont fait la même chose. Pour mémoire, ne pas l'oublier, pour que vous le marquiez bien, il y a tous les ans depuis 2002 une journée nationale autour du 18 juillet pour commémorer la rafle du Belviv et les persécutions antisémites françaises, mais pour honorer les justes. Ce qui fait que la préfète des Alpes, des Hautes-Alpes, comme tous les préfets de France, ira ce jour-là au monument aux morts et lira le message national, le seul message d'honneur pour honorer les justes. Je vous invite à réfléchir aux façons de dénoncer cette hypocrisie. Donc, oui, je suis enfant caché. J'ai aussi passé la ligne de démarcation avant, à 5 ans, avec une soeur de 4 ans et une soeur de 2 ans, seule, sans mes parents. Et grâce là, non pas à des gens qui nous ont cachés, mais au conducteur de la locomotive qui a accepté d'arrêter son train en pleine campagne pour qu'on soit descendu et qu'on soit confié aux personnes qui étaient sur la voie. Donc, l'histoire de la solidarité française est longue et multiple, invisible. Nous avons bénéficié de ça ici. Donc il est essentiel qu'aujourd'hui nous parlions. À ce titre-là, nous avons édité, j'en ai d'autres, l'année dernière pour les camarades de la Roya, un appel des enfants cachés pour expliquer que nous étions totalement solidaires de ce combat. Alors effectivement, nous sommes totalement solidaires. Mais à notre avis, à mon avis, il me semble qu'aujourd'hui, comme il l'a très bien dit, ça sera à l'avant, le gouvernement, mais le précédent c'était pareil, hein, faut pas, entend rompre le dos à tout mouvement populaire de la société civile, quel qu'il soit, parce qu'on voit la même chose dans la question palestinienne avec le mouvement BDS, criminaliser toute voix opposée et criminalisée, cassée, rompre les dos, rompre les os de tous les militants qui sont antifascistes et dont la crise de conscience politique fait jour actuellement. Et ça, c'est cette violence d'État, violence d'État contre les migrants, violence d'État contre les personnes solidaires, violence d'État contre tout mouvement et toute
tentative de dire non à ces politiques fascistes. Et il faut qu'on est d'accord ensemble pour dire qu'effectivement, la question des groupes identitaires autorisés à la vallée sur le col de l'échelle, ce sont rien d'autre que des milices fascistes, des milices d'État qui ne disent pas leur son nom et qui auront le même rôle que celle que la milice sous Vichy, les basses œuvres seront exécutées par ces voyous. Et là-dessus, il faut le dire. Bon. Donc, voilà à peu près notre position. Les raisons pour lesquelles nous sommes totalement investis dans la mesure de nos possibilités, naturellement, dans cette solidarité, dans ce déni de solidarité.
Témoignage d'une militante du refuge solidaire à Briançon.
Donc, nous, moi, je suis investie à tous les grands et au refuge solidaire. Le refuge solidaire est un lieu qui est ouvert depuis bientôt un an. Donc, il est ouvert à Briançon depuis près d'un an maintenant. Le lieu est mis à disposition par la communauté de communes, ce qui est quand même assez exceptionnel. En général, c'est un plutôt des lieux qui sont squattés par. Personnes, des citoyens, simplement. Ce lieu, il est à côté de la mosquée à Briançon. C'est pas anodin non plus dans les conséquences sur la mosquée, par exemple. Les jeunes qui arrivent de Clavière, maintenant c'est de Clavière, l'été dernier passaient par le code de l'échelle, ils ont sans doute continué à passer par le code de l'échelle. Et puis, quand ils arrivent au refuge ou des bénévoles, les accueils. Le premier accueil, c'est effectivement demander s'ils vont bien, s'ils vont faim, ils ont besoin de se reposer, pardon. Et puis, il y a différentes équipes, donc l'équipe d'accueil, l'équipe pour les repas, il y a un accueil médical. Donc, ce sont tous des gens engagés bénévolement, citoyens, médecins, qui viennent infirmières, qui viennent prendre soin de toutes ces personnes qui arrivent. Il y a bien sûr des mineurs en grand nombre et des majeurs. Pour les mineurs, on a des démarches particulières, c'est-à-dire que dès qu'un mineur arrive au refuge, bien sûr, il y a toujours cette période de repos et de soins, mais nous, on prévient immédiatement le département qu'un mineur isolé arrive au refuge. Ce qui nous met en difficulté par rapport à ces mineurs, c'est qu'on nous oblige à les emmener au commissariat, parce que sinon, ils ne sont pas pris en charge. On les accompagne, on ne les est certainement pas tout seul. Et à ce rendez-vous où ils vont se signaler au commissariat, ils sont parfois pris en charge, d'autres fois non.
Alors, quand ils sont pris en charge, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que depuis les services du département, et comment ça se passe?
Alors, quand ils sont pris en charge, déjà, il y a une très longue attente, mais pas dans le commissariat, bien sûr, devant, à la vue du monde, le commissariat, la plupart du temps, ils sont assis sur les escaliers, ils flottent, ils vendent du neige, ils sont à la vue du monde et ils attendent de longues heures, sans avoir à manger, sans avoir l'occasion d'aller au travers, enfin voilà, le minimum de ce qui se pour un être humain. Donc ils attendent de longues heures et puis on leur dit, bon, mais toi, il y a des éducateurs qui vont se chercher. À d'autres, on donne un billet de train en disant ben, tu vas à Gap, et puis à Gap, tu vas au conseil départemental, ou bien vous retournez au refuge parce qu'il n'y a pas de place aujourd'hui. Et puis d'autres, depuis quelques temps, sont aussi envoyés à l'hôtel. Tout seul, ils doivent se débrouiller parce que d'un côté, nous, on continue à les accompagner, alors que c'est normalement le département qui devrait le faire. Et d'un autre côté, on nous reproche aussi de s'immiscer dans quelque chose qui ne nous regarde pas. Pour nous, c'est évident qu'on ne laissera pas des mineurs devoir se débrouiller tout seul. Et on est effectivement aussi en lien du coup avec GAP pour les mineurs, pour que ce soit le mieux accompagné possible pour rejoindre le mieux en plus.
Et quand ils sont pas reconnus, accueillis légalement par la France, qu'est-ce qui se passe? Au refuge solidaire, il y a des enfants qui sont déminorisés ou qui ne sont pas. Sont pas mineurs, comment ces personnes-là sont accueillies sur Briançon?
Alors, pour le refuge solidaire, les jeunes
ne reviennent pas en général, enfin, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait un qui soit revenu. Ils sont accompagnés plutôt à Gap ou dans des familles, qui sont des familles aussi, d'ailleurs. Et pour les majeurs, la plupart, quand ils arrivent, ils n'ont pas de contact en France, ils n'ont pas de famille, ils ne savent pas où aller. Alors, c'est sûr qu'ils arrivent en disant on va aller à Paris. Donc, il faut déjà leur expliquer qu'il n'y a pas que Paris en France, qu'il y a d'autres endroits, qu'à Paris c'est saturé. Et ensuite, il faut qu'ils puissent partir de Paris. Donc, c'est sûr qu'ils en ont les moyens financiers, parce qu'au refus, on ne finance pas le transport des jeunes. Il faut que, voilà, soit ils ont assez d'argent, soit ils débrouillent entre eux pour pouvoir prendre le train quand il y a du train, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une chose qui nous met en difficulté. Voilà, ils essaient de quitter le refus. Là aussi, depuis un an, les choses ont évolué, pas toujours dans le sens, il y a toujours beaucoup de changements. Au départ, l'été dernier, le seul dernier, le temps de l'heure, c'était pratiquement le climatiquement là, au départ du car ou au départ du train, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs. On se rassemblait, dès qu'on savait qu'il y avait des jeunes qui partaient, il y avait des bénévoles qui venaient qui accompagnaient pour prendre leur moyen de transport et aller demander la vie pour les majeurs là où ils voulaient aller. Après, ça s'est calmé. Voilà, ils ont pu prendre le transport librement, on a eu ça comme ça. Et ensuite, aujourd'hui, on a plusieurs retours de jeunes qui ont pris le train Paris, Briançon Paris, pardon, et qui arrivaient à la gare de service. Et c'est attendu par les forces de l'ordre, et on a mis justement en centre de rétention. Certains sont déjà repassés, retournés en Italie et revenus au refus. Donc voilà, quel que soit de toute façon le fonctionnement des forces de l'ordre en les ramenant en Italie.
C'est une spirale infernale.
C'est une spirale infernale. Et beaucoup d'entre eux qui arrivent au refus, d'ailleurs, ont tenté une fois, deux fois, trois fois avant d'arriver au refus.
De parole.
Marcel, c'est sur la commune de Briançon. C'est un lieu qui a ouvert début août 2017.
Pardon.
C'est un lieu qui a ouvert début août 2017 et qui a vocation d'accueillir des personnes qui arrivent de la frontière. Pour nous, cette maison, elle a été ouverte pour offrir, si c'est possible, dans le voyage, un répit et de réfléchir au chemin et de construire la vie à Briançon quand forcément être dans le passage, dans le. Voilà. Il y a un deux groupes qui s'inscrit beaucoup en complément d'amitié avec le refuge, parce que le refuge, eux, ils accueillent tout le monde et beaucoup de personnes. Nous, on accueille 20 ou 25 de personnes, mais c'est pour la durée, du coup, c'est des personnes qu'on essaye d'accompagner le plus possible dans leur papier, dans le refuge d'accueil. Qui a cette volonté d'accueil, mais c'est aussi un lieu qui s'inscrit quand même dans une volonté politique. C'est pas une chose des personnes qui sont écrasées totalement par le système et en fait de lutter contre, qui vivent à la frontière, contre cette frontière qui en fait est plus d'humanité, c'est plus d'humains, c'est des migrants. Et en fait, nous, on veut pas de ça. En fait, chaque personne qui passe la frontière, elle doit être accueillie, elle doit être écoutée. Et voilà.
Vous êtes un groupe de combien de personnes qui accueillent en permanence? C'est difficile de dire ça.
Au début, on était nombreux. De quoi, il y a quelques temps, on a reçu beaucoup d'aide des amis qui venaient de la Drôme, mais c'est un mec qui a concentré géographiquement beaucoup de personnes. Et des fois, ça se seul un peu. On est plus que 3, 4, 5, des fois, on est une dizaine et c'est un mec.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aller pendant une semaine, 15 jours, qui est un peu près un peu fort, ils ont droit.
Ah, c'est super bien vu, les énergies sont bonnes, parce qu'il y a de la place pour 2 ou 4 simplement, il y a de la place pour aller à l'autre, enfin, il y a de la place pour tout le monde.
Prise de parole d'une personne d'un refuge autogéré, chez Jésus, à Clavière, côté italien.
Bonjour,
on vient de Clavière, de chez de Douce, un refuge autogéré qui est à la frontière, à 2 km de la frontière. Ce refuge a été occupé il y a 2 mois et demi, sur l'occupation. Elle est née par une nécessité, par un besoin, et après un parcours de quelques mois, qui est née en Val-Souza et dans les Briançonnais, et qui a eu en fait la nécessité d'occuper ce lieu, pour tout le monde qui est du passage. Ce lieu, c'est un lieu d'auto-organisation pour les gens qui veulent passer la frontière. C'est un lieu où on ne demande pas de papiers, on ne demande pas de documents. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de comprendre ce qu'il veut faire de sa vie. Nous ne sommes pas une association, on n'est pas une NGO. On est simplement des gens qui ont envie de lutter contre la frontière et qui sont contre tout le système de sélection et de tri qui fait la frontière. Du coup, on peut voir à Clavière, comme partout en fait, la frontière c'est un système de sélection et de division. Cette frontière, elle est visible à Clavière. Elle est visible dans le fait que les marchandises n'ont pas de problèmes à passer. Les touristes, ils peuvent passer très facilement. Par contre, les migrants, ils sont bloqués. Et tous les gens qui n'ont pas d'argent, assez de sous pour passer, ils veulent être reculés. C'est une frontière économique. C'est pour ça que nous, on cherche de faire tout ce pour lutter, ça, à la base. Les frontières, pour ça, c'est de là qu'est partie la marche du 22, qui a vu plus de 200 personnes passer la frontière à pied. Cette marche, c'était une marche spontanée qui a justement dû passer la frontière à pied. On n'a pas demandé les papiers à les gens qui étaient avec nous, on n'a pas demandé l'identité. Elle est née parce qu'il y avait une militarisation très poussée, c'est-à-dire qu'en fait les militaires ils étaient là très présents, ils faisaient la chasse à l'homme la nuit comme les jours, et ils s'entraînaient à chasser les migrants, c'est ça qu'ils faisaient. Cette marche, elle est à cause de ça, elle est à cause du fait que la militarisation, elle tue, et on l'a vu depuis les dernières 3 semaines, il y a eu 3 morts, 3 personnes qui ont été retrouvées mortes à la frontière. La cause de ça, ce n'est pas la montagne. La cause de ça, ce n'est pas les cloîtres. La cause de ça, c'est la militarisation, c'est la police. Blessing est morte parce qu'elle fuyait la police. Et les autres, pareil, en fait. S'il n'y avait pas de problème à passer cette frontière, il y a des trains, il y a des bus. Elle pourrait passer avec ça, mais elle ne peut pas. Et puis, ils sont obligés à prendre des parcours très dangereux pour passer. C'est à cause de ça qu'il y a les morts. C'est à cause de ça qu'en fait, on est là et on cherche de lutter pour ce système. La frontière, elle n'est pas seulement la Clavière, elle n'est pas seulement une ligne. La frontière, elle est partout. Elle est dans les villes. Et là, on cherche de l'externaliser de plus en plus. C'est au Libye, c'est dans les villes aussi, c'est dans les centres de rétention, c'est les rafles que la police fait dans nos routes, en fait. C'est qu'on veut... La journée des 22 a vu, c'était une grande journée. On a passé ensemble à la frontière et on n'a pas dû se cacher. Tout le monde a passé la nuit, tout le monde s'est caché dans la montagne. Ce jour-là, on est passé à pied, on est passé pendant la journée. Et c'était une grande journée. C'est à cause de ça, en fait, que la répression elle est arrivée. C'est à cause de ça que Bastien, Eleonora et Théo ont été arrêtés. Parce que l'État français, il ne pouvait pas, en fait... Je n'ai pas une réponse à cette mobilisation. Pour ça, on est là, en fait. On ne croit pas que le système va changer à cause de ces projets. Moi, je ne crois pas du tout dans ça. Mais on est là pour lutter, en fait, la frontière en soi. Qu'est-ce que tout le système de division, tout cela. Une réponse, et c'est pour ça aussi que je vais présenter ça, c'est aussi une... La réponse de la solidarité doit être actée, doit être pratiquée. C'est quelque chose de tous les jours. Tous les jours, dans nos quartiers, dans nos villes, dans les lieux où nous sommes, on peut lutter contre ce système. Là, on va aussi lancer la 3 jours qu'on va faire à la frontière, les 8, 9 et 10 juin. On va faire 3 jours de lutte, depuis la fin de l'échelle jusqu'à Briançon. Ça va être 3 jours où on se confronte, on parle, on discute de plein de thématiques différentes et on acte notre solidarité, une solidarité directe. Et c'est une lutte. On lutte aussi contre le fascisme qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les fascistes qui sont dans les Briançonnais depuis des semaines, désormais.
Plus, ils sont toujours là parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont surpris quand on dit que génération identitaire est toujours à la frontière italienne. Elle est toujours à la frontière italienne et cherche encore de bloquer les migrants, de les identifier, d'identifier les solidaires et tout. Et c'est aussi à cause de ça pour donner une réponse à la fascisation qui est en train de se développer de plus en plus aussi dans les vrais entraîneurs qui ont fait ce soir.
Donc le réseau Hospitalité existe depuis 3 ans, à Gap à peu près. C'est un réseau, comme son nom l'indique, où il y a des associations diverses et variées, des syndicats, enfin, des personnes solidaires des migrants, et également des personnes qui sont individuellement. On a, quand les migrants ont passé par Briançon, ensuite, quand les mineurs viennent passer leur évaluation au... Voilà. Leur évaluation au conseil départemental, certains sont acceptés comme mineurs et donc ils partent et ils ont des ordonnances de placement provisoire, et d'autres ne sont pas reconnus mineurs et ils sont déclarés majeurs, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils sont réellement mineurs. Donc ce sont ces jeunes que nous accueillons à Gap, entre autres, et pour lesquels nous cherchons des solutions d'hébergement, puisqu'il n'y a aucune solution pour eux. Voilà. Et l'autre partie du travail du réseau Hospitalité, ce sont les familles qui arrivent aussi par l'école, hein, avec des petits-enfants souvent, et pour lesquels on recherche également des hébergements quand ils ne relèvent pas du droit d'asile et qu'ils ne peuvent pas être hébergés dans le réseau des logements du CADA. Donc on dit qu'il y a à l'heure actuelle à Gap et dans les environs à peu près une cinquantaine de familles qui tournent pour accueillir toutes ces personnes, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en ce moment, de nouveau, il y a énormément de jeunes qui arrivent et très souvent le soir, on se retrouve avec 6-7 jeunes qui n'ont aucun hébergement. On a alerté bien sûr toutes les personnes, les personnalités publiques, la préfète, le département, tous les gens qui devraient les accueillir normalement. Nous n'avons aucun succès pour l'instant. On espère qu'on finira par y arriver, mais voilà, c'est un peu un appel aussi que nous lançons là-dessus. Je voulais juste dire un tout petit texte j'ai rencontré beaucoup de familles qui accueillent, et elles ne sont pas toutes là, mais il y en a pas mal qui sont, elles pourront aussi parler. Je voulais juste dire ce que ça m'a fait quand ils m'ont parlé de ce qu'ils font chez eux, et voilà. Ils ont ouvert leurs portes, poussé les murs de leur maison, allant jusqu'à donner leur chambre. Ils ont regardé les cartes du monde avec leurs hôtes, faisant disparaître les frontières que d'autres s'obstinent à grillager. Ils ont échangé des recettes de cuisine, des façons de faire, des façons d'être, montrant que l'hospitalité va dans les deux sens. Leurs enfants ont appris qu'ils n'étaient pas seuls au monde et ils ont partagé leurs jeux, leurs parents. Ils ont veillé sur le sommeil perturbé de leurs invités, fait attention à leur façon de manger, soigné leurs bobos. Ils ont redonné du sens au mot hospitalité et inscrit sur leur porte le mot fraternité, deux mots que la France a oubliés. Ils ont trouvé des moyens de communication lorsque la langue n'était pas la même, utilisant les traducteurs des smartphones. Ils se sont souciés de procurer une halte chaleureuse à ceux qui étaient sur les routes depuis si longtemps. Ils ont parfois supporté des crises d'adolescence ou d'angoisse des jeunes qui les accueillaient. Ils apprennent les conséquences du ramadan sur la vie quotidienne, même s'ils sont des athées convaincus. Pour les plus vieux, ils vivent leur bonheur d'une maison à nouveau bruissante, une énergie retrouvée, des discussions passionnantes. Et les petits-enfants se trouvent normal de retrouver ces exilés à chaque vacances. D'autres, ceux-là, c'est ceux qui accueillent chez eux, mais il y a d'autres bénévoles, ils passent de longues heures à préparer des sauces tomates variées pour accompagner le riz qui est servi aux affamés du Secours catholique tous les jours, le midi et le soir. D'autres préparent des exercices pour les moments d'écriture ou de lecture que les jeunes attendent avec impatience. Ceux qui font le suivi juridique, on va vous en parler, s'enthousiasment lorsqu'un jeune redevient mineur ou lorsqu'une famille obtient enfin une régularisation. Tous visent les attentions des familles ou des jeunes accueillis et les aides qu'apportent tous ces jeunes chez eux quand ils donnent des coups de main au garage, au jardin, à la cuisine, et les sourires qui reviennent sur des visages fermés et la peur qui s'éloigne un peu. Aucun d'entre eux ne comprend pourquoi la France ne veut pas accueillir ces personnes qui souhaitent vivre ici avec nous.
Comment peut-on évoquer le manque de moyens ou le trop grand nombre de ces personnes alors que d'autres pays en accueillent bien plus que nous et que nous sommes un des pays les plus riches d'Europe? Pour les accueillants, peu importe qu'ils soient des exilés à cause de la guerre ou de l'économie ou du climat, ils veulent que la France offre un accueil inconditionnel, des logements, des papiers, du travail pour toutes ces personnes.
Toi le voyageur, toi l'étranger, assieds-moi les cons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-moi les cons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalam alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assalam alaikum. Assalamu alaikum aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi, je t'en prie, merbebik, fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison. Ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assalamu alaikum. C'est le désert, si courte notre ville, on se croit maître de l'univers. Et si on se voit tout petit, grain de sable, emporté par le vent, nous ne sommes que poussière. Regarde le ciel et contemple, mon ami, la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir. Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaire ou nomade, on fait tout ce que passer. Marcher ou courir sur place, chacun sa vérité. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assalamu alaikum.
Hors les murs à Gap le 31 mai, à l'occasion du procès de trois personnes inculpées pour délit de solidarité. Cette émission rassemble les prises de parole des inculpés et de leurs avocats, ainsi que de nombreux témoignages de solidarité.
Notre présence nombreuse aujourd'hui est un espoir, mais est surtout un signe de notre force. Une force de coordination, de mobilisation, une force solidaire face à la répression. Répression qui s'abat sur les hommes qui souhaitent une politique d'accueil humaine. Le harcèlement des autorités, que les autorités nous font subir n'empêchera jamais la solidarité de se faire. Au contraire, elle la renforce. La militarisation ne fait que tuer des personnes. Depuis un mois, soit le début du procès, trois personnes ont été retrouvées mortes, assassinées par les politiques mises en place par les autorités et défendues par le procureur de Gap. C'est donc pour soutenir une démarche qui délégitime la répression et qui reconnaît la nécessité de l'entraide qu'il a été décidé de poser une question de priorité constitutionnelle. En demandant si un délit de solidarité n'entre pas en contradiction avec le principe de fraternité, nous élargissons le débat public et rendrons inconstitutionnelle la volonté de réprimer la solidarité. Pourtant, nous ne sommes pas dupes.
et savons que nous ne pouvons pas avoir foi en cet organe qu'est la Constitution, qu'est la Cour de constitutionnelle, car les juges qui y siègent sont nommés par les mêmes politiques qui ont instauré et maintiennent ce système de refoulement honteux. Ce sont les mêmes personnes qui permettent la répression des gens qui organisent la solidarité. Parmi ceux-là, le procureur de Gap, Raphaël Ballan, qui, après avoir inculpé les trois de Briançon, après les avoir emprisonnés durant 2 semaines, après les avoir assignés à la liberté conditionnelle, se demande souvent si son accusation est fondée. A-t-il seulement lu son dossier? Lorsque le procureur Ballan fait citer à la presse le report du jugement, son souhait est de diluer notre mobilisation, cette force qui lui fait peur. Son objectif est également de repousser une décision qui met en cause sa politique respective et par ce moyen continue tranquillement à harceler les personnes solidaires et les personnes en exil. Mais nous ne le serons pas intimidés par ces politiques respectives. Au contraire, nous tissons des liens, nous nous rencontrons et renforçons la solidarité internationale. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous mobiliser pour une diversité de moyens d'action et pour un accueil digne et humain des personnes en situation de migration. Un de ces moyens et d'action est de réaffirmer notre solidarité par une randonnée qui aura lieu le 8, 9 et 10 juin à travers les montagnes dont les camarades ont parlé précédemment. Nous ne faiblirons pas, nous nous renforçons. Solidarité avec les personnes en exil et leur soutien. Merci.
Bravo.
Lecture d'un extrait de l'ouvrage Osons la fraternité.
Le recueil s'appelle Osons la fraternité, mais je pense qu'il devrait plutôt s'appeler Sauvons la fraternité, parce que c'est elle qui est attaquée à l'heure actuelle. La fraternité est vraiment en danger. Si on se souvient que la fraternité a été le troisième mot du triptyque de liberté, égalité, fraternité mis à, rajouté à la devise en 1848, en réalité, nous vivons dans une époque où on revient en deçà de 1848, c'est-à-dire une période extrêmement réactionnaire. Donc, je vais vous lire ce deux petits paragraphes de l'introduction qui présente ce livre, Sauvant la fraternité. C'est donc de Michel Lebris et de Patrick Chamoiseau. La Méditerranée est déjà un immense cimetière. Rien de notre actuel niveau de conscience, de nos connexions démultipliées ou de nos transcendances concernant la question de l'humain ne parvient à s'opposer à cela. On meurt, on laisse mourir, on regarde mourir et on tolère un océan de déchéance imposée à des hommes, des femmes et des enfants dans lequel on se retrouve à barboter jusqu'au mi-temps des villes. Quand une civilisation renonce à ses propres valeurs ou qu'elle ruse avec ce qu'elle lui a permis de structurer, ses avancées et ses systèmes, quand elle justifie l'injustifiable, quand elle déserte ses propres élaborations de ce qui est humain ou qu'elle accepte à l'homme dont ne sait quelle exonération que des centaines de personnes puissent mourir à ses portes, c'est qu'il y a une part de l'intelligible et du sensible, et un au-delà de l'intelligible et du sensible qui s'est fermé à ce que nous sommes devenus. C'est cet au-delà de l'intelligible et du sensible qu'il nous faut invoquer. Notre niveau de conscience individuée nous rend tous responsables. Nous savons, nous voyons, nous entendons, nous lisons, nous constatons. Nous sommes comptables autant de ce que nous faisons que de ce que nous ne faisons pas. Chaque geste compte, chaque absence pèse, chaque défaillance menace l'équilibre d'ensemble. C'est la grandeur, la misère et les défis de la démocratie. Nous ne pouvons plus rien déléguer de l'essentiel. Il y a dans chaque instant et dans chaque seconde, chacun se trouve garant du niveau d'exigence de la seconde qui passe. Ce niveau d'exigence n'est pas inatteignable. La preuve, c'est que partout, dans les villes, les déserts, les montagnes,
dans les aubes et les neiges sur toutes les rives de la Méditerranée, il y a des gens, pas des héros de foire, créatures immédiates aux philosophes d'académie, mais des gens de l'ordinaire, des associations dont le seul blason, mais dont les seuls moyens relèvent de la ferveur, qui agissent, qui contredisent les lois, qui bravent les tribunaux et les barreaux des prisons, qui refusent, qui, le faisant, nous instruisent de notre propre devoir et de la beauté de ce politique. Des gens qui ne renoncent pas à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes et qui se portent au-devant des migrants comme ils s'agenouilleraient au sommet d'une idée de lui-même. De sous la défaite officielle, le possible citoyen subit comme une matière utile, l'équation imprévisible, l'immesurable d'un au-delà de l'intelligible et du sensible émerge, s'insigne, demeure un improbable de ce qui est humain se maintient sur la scène.
De parole d'une habitante de la vallée de la Roya.
La haute vallée de la Roya, dans le département des Alpes-Maritimes, est devenue récemment un lieu emblématique de la frontière où s'est exacerbé le vieux débat sur l'identité nationale et le contrôle des migrants. Cela n'est pas nouveau. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est aussi la région de France où s'est déroulé un chapitre à la fois honteux et héroïque de la Deuxième Guerre mondiale. Je puis en parler parce que j'ai été mêlée à cette histoire depuis ma petite enfance. En 1943, nous étions ma mère, mes grands-parents maternels, mon frère et moi, loin de là, cachés dans le village de Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie. Nous étions dans ce village parce que, en tant que citoyen britannique, mon père était médecin militaire en poste dans les colonies anglaises de l'Ouest africain, nous étions sous la menace d'être déportés par les Allemands vers un camp de concentration. Jusqu'à l'arrivée des Américains en 1945, nous avons vécu dans ce village sous la protection des habitants, au premier étage d'un immeuble désaffecté. Nous avons été aidés, et même si nous n'avions pas beaucoup de liberté de mouvement, nous ne manquions de rien en nourriture et en chaleur humaine. D'autres réfugiés de cette région n'ont pas eu la même chance. À quelques kilomètres de là, à Saint-Martin-des-Vivis, les familles juives qui avaient bénéficié de l'accueil et du soutien des habitants ont tenté de fuir l'arrivée de l'armée allemande en traversant les montagnes par le col de Fenestre pour gagner l'Italie où elles pensaient trouver la sécurité. Elles ont été, de l'autre côté de la frontière, bien reçues et aidées par les habitants des villages de la Stura, en particulier à Santa Anna Valdieri, d'où certains ont pu gagner le port de Livourne. Malheureusement, nombre d'entre elles furent capturées par l'armée allemande à Burgos, San Dalmatio, envoyées en train jusqu'à Drancy et déportées vers les camps de mort nazis. Si j'en parle, c'est surtout pour dire l'honneur de la population des villages de la frontière. Dans les hautes vallées de la Crimée, de la Vésubie, et maintenant plus de 70 ans après, à Breil-sur-Roya. C'est l'honneur des habitants de ces lieux isolés, réputés âpres et un peu sauvages, d'avoir tenu tête à la machine administrative inhumaine et d'avoir ouvert leur cœur aux réfugiés sans crainte de dénonciation et de représailles. Cela s'est passé l'année dernière à deux points de la frontière entre l'Italie et la France. Un enseignant, M. Pierre-Alain Manoni, s'est retrouvé devant le tribunal de Nice pour avoir transporté à bord de son auto des jeunes femmes érythréennes qui avaient franchi clandestinement la frontière et qui marchaient le long de la route à bout de force. Le procureur de la République a requis 6 mois de prison avec sursis à son encontre, sans tenir compte de la situation d'épuisement dans laquelle ces migrants se trouvaient. L'autre exemple, encore plus parlant, est celui donné par la population de Breil-sur-Roya, qui dans son ensemble a soutenu l'action du collectif Roya Citoyenne, et particulièrement celle d'un agriculteur de la vallée, M. Cédric Héroux, qui a hébergé des migrants érythréens dans un centre de vacances désaffecté de la SNCF, à Saint-Dalmas-du-Tambre. Là encore, le tribunal a requis contre lui une peine de prison avec sursis et une amende. Les procureurs, puis les juges de la cour d'appel, ont décidé d'ignorer l'obligation de recours et la motivation humaine qui ont poussé ces personnes à enfreindre la loi. On peut reprocher aux juges leur rigueur, leur respect excessif des textes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'une loi est mauvaise, et la loi qui punit les riverains de la frontière dans les Alpes-Maritimes parce qu'ils ont porté secours à des êtres humains en situation de danger,
cette loi est mauvaise. Ceux qui l'enfreignent ont raison. Ce ne sont pas eux qu'il faut punir. C'est la loi qu'il faut changer. Le courage et la détermination des habitants des villages frontaliers des Alpes-Maritimes sont l'honneur de la France. Les habitants de cette région ont connu le drame des réfugiés durant la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, devant cet autre drame que représente le passage des migrants, fuyant les guerres et la famine, ils montrent la même générosité que leurs grands-parents, que leurs parents, le même courage, c'est-à-dire tout simplement leur humanité. On pourrait minimiser l'action de ces villageois, à considérer comme un simple incident dans le déroulement de cette catastrophe qui jette à travers les montagnes et les mers des civils en état de danger mortel. On pourrait souligner aussi avec raison le rôle odieux et cruel des passeurs, les illusions qui attirent les migrants dans des pièges parfois mortels. Mais peut-on ignorer la réalité? Peut-on laisser au bord du chemin des femmes, des hommes, des enfants en souffrance, écorchés par la vie, déshydratés, souffrant de faim et d'épuisement? Ces actions généreuses et désintéressées des villageois de Braine-sur-Oya sont au contraire de la plus grande importance. Car chacune représente un espoir pour les migrants. Le don que font les habitants de la frontière pour joindre leurs efforts à tous ceux qui ont cours dans le monde, le long de cette immense ligne imaginaire et violente qui parle des humains. D'un côté, ceux qui ont tout, la sécurité, la prospérité, la vie, et de l'autre, ceux qui sont dépourvus de tout, et surtout de liberté. La vérité, c'est que chaque drame de la migration en provenance des pays pauvres pose la question qui s'est présentée jadis aux habitants de Rocodilière lorsqu'ils ont offert la ville à ma mère et à ses enfants. C'est la question de la responsabilité. Dans le monde contemporain, l'histoire ne répartit plus les populations entre factions guerrières. Elle met d'un côté ceux qui, par le hasard de leur situation géographique, par leur puissance économique acquise au long des siècles, par leur expérience, connaissent les bienfaits de la paix et de la prospérité, et de l'autre les peuples qui sont en manque de tout, et surtout de démocratie. La responsabilité, ce n'est pas une vague notion philosophique, c'est une réalité, car les situations que fuient ces déshérités, ce sont les nations riches qui les ont créées, par la conquête violente des colonies, puis après l'indépendance en soutenant les tyrannies, et enfin au temps contemporain en fomentant des guerres à outrance dans lesquelles la vie des uns ne vaut rien quand la vie des autres est un précieux trésor. La migration n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. Elle est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre regard, accepter qu'ils soient refoulés comme indésirables, comme si le malheur était un crime et la pauvreté une maladie? On entend souvent dire que ces situations sont inexplicables, inévitables, que nous, les nantis, ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, qu'il faut bien des frontières pour nous protéger, que nous sommes sous la menace d'une invasion. Quand bien même nous ne garderions que l'argument sécuritaire, n'est-il pas évident que nos murs, nos barbelés, nos miradors sont des protections illusoires? Nous ne pouvons accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Nous ne pouvons accéder à leurs demandes par charité ou par humanisme. Pouvons-nous le faire au moins par raison? Comme le dit la grande Aïcha Esh Chena, qui vient en aide aux enfants abandonnés du Maroc, donnez, car si vous ne le faites pas, un jour, ces enfants viendront vous demander des comptes. L'histoire récente du monde nous met devant deux principes contradictoires, mais non irréconciliables. D'une part, l'espoir que nous avons de créer un jour un lieu commun à toute l'humanité, un lieu où régnerait
une constitution universelle, et d'autre part la consolidation des barrières préventives contre guerre, épidémie et révolution. Entre ces deux extrêmes, la condition des migrants nous rappelle à une modestie plus réaliste. Elle nous remet en mémoire l'histoire déjà ancienne des conflits inégaux entre pays riches et pays sous-équipés. Nous nous sommes habitués progressivement, depuis les guerres d'indépendance, à ce que des centaines de milliers d'êtres humains, en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique latine, naissent, vivent et meurent dans des villes de toile et de tôle, en marge des pays prospères. Aujourd'hui, avec l'aggravation des conflits et la sous-alimentation dans les pays déshérités, on découvre que ces gens ne peuvent plus être confinés, qu'ils traversent déserts, forêts et mers pour tenter d'échapper à leur fatalité. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort? Dans son beau livre, le docteur Pietro Bartolo cite cette phrase de Martin Luther King qui n'a jamais sonné aussi vrai. Nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons. Mais nous n'avons pas appris l'art, tout simple, de vivre ensemble comme des frères.
Osons la fraternité, c'est le titre du livre pour ceux qui cherchent. Il y a tout un tas d'auteurs qui sont réunis, et notamment un appel d'écrit par Patrick Chamoiseau.
Prise de parole d'un membre du collectif Délinquants Solidaires.
Le délit de solidarité pour lequel sont visés Élise, Honora, Théo et Bastien, ce 31 mai, est notre délit à tous et à toutes, sans distinction. C'est le délit d'un territoire et de l'ensemble de ses habitants solidaires les uns des autres, solidaires des exilés. C'est le délit de tous les solidaires qui patrouillent pour éviter des morts, des mutilations par le froid. C'est le délit de tous ceux qui transportent, accueillent, aident, hébergent, préparent des repas et lavent le linge, solidaires, professionnels, élus. C'est le délit de toutes les personnes qui nous soutiennent par leur présence et aussi financièrement et qui nous font parvenir des messages d'encouragement. C'est le délit de tous les solidaires qui œuvrent partout en France, en Italie et ailleurs et qui sont rassemblés aujourd'hui ici. C'est le délit de tous ceux qui agissent et disent non à l'inhumanité, oui à la fraternité. Mais rappelons un simple détail. C'est l'État qui a décidé de considérer tout cela comme un délit. Cela est insensé. Chacun de nos gestes et engagements relève du devoir le plus élémentaire, l'évident devoir de solidarité. Et c'est bien ce devoir de solidarité qui est légitime et respectueux des droits fondamentaux, et c'est bien l'État français qui ne respecte pas les droits de l'homme ni les traités internationaux, et qui prend des mesures répressives aux lourdes conséquences. Les solidaires ne seront plus en montagne si l'État accomplit tout simplement son devoir de solidarité et devient cohérent. Aujourd'hui, on nous inquiète parce que nous appliquons le principe de l'assistance à personne en réel danger. On nous intimide parce que nous avons choisi simplement d'accueillir, d'aider, de porter secours à des rescapés. On nous enferme et on nous accuse parce que nous revendiquons le respect des droits fondamentaux et parce que nous osons dire que l'État français manque à ses devoirs, qu'il ne respecte pas ses engagements et qu'il pousse les exilés et les aidants dans une impasse. Mais nous allons continuer. Nous continuerons de résister à bras et à portes ouvertes. Nous continuerons de dénoncer que des êtres humains sont traqués comme des bêtes et mis en danger, que des enfants sont laissés à la rue, car le gouvernement français en a décidé ainsi. Nous continuerons à revendiquer comme légitime la solidarité et la défense des droits fondamentaux. Nous continuerons à exiger la libre circulation en Europe, le droit à demander l'asile dans le pays de son choix, le droit à un accueil digne. Et nous continuerons à agir pour que les frontières ne soient pas des obstacles meurtriers et que la montagne ne devienne pas un cimetière. Les montagnards savent qu'on n'abandonne jamais quelqu'un en difficulté,
qu'on lui ouvre la porte, sinon il peut mourir. Depuis des mois, pratiquement toutes les nuits, les accidents sont évités de justesse par l'action des solidaires. Malgré nos patrouilles et nos alertes auprès des représentants de l'État, les dangers intrinsèques à la montagne ont été aggravés par la présence policière et ces dernières semaines par un renforcement démesuré des forces de l'ordre, ainsi que par la présence active des identitaires qui collaborent avec la police sous nos yeux en organisant des traques de personnes migrantes, épuisées, égarées, terrorisées. Le bilan aujourd'hui, de cet hiver, c'est 3 morts, 3 jeunes d'une vingtaine d'années, une femme, 2 hommes, avec un nom, une histoire et des rêves. Un nom pas pour tout le monde, il y a Blessing, Alpha et un migrant inconnu. 3 jeunes d'un autre côté sont là, ici, en jugement, pour avoir voulu leur porter assistance, pour tenter de sauver des migrants, des enfants. Et en même temps, on a la présence médiatique de notre président avec ce jeune héros migrant qui a sauvé un enfant pendu à un balcon. C'est insupportable. Je voulais aussi vous rappeler que ce matin, pendant qu'il y avait le procès ici, aux Alpes, il y avait l'enterrement d'Alpha. Un hommage qui sera rendu demain soir à 20h30 aux Alpes, que ceux qui veulent s'y joindre le fassent. Nous, on exige aujourd'hui de notre État qu'il ne punisse pas Eleonora, Bastien et Théo. Ces 3 jeunes solidaires dont la seule faute est d'avoir voulu éviter que des exilés trouvent la mort dans la montagne, mais qu'il les félicite pour avoir accompli leur devoir d'assistance à personne en danger. Alors, je vous remercie de votre attention et si vous voulez vous joindre à la commémoration en la mémoire de Alpha, ce vendredi.
De parole dans l'ombre de la perdition.
On a eu une présence très régulière jusqu'à la mi-mars à peu près, notamment sur le col du Mont-Genèvre. On sait que grâce à cette présence régulière, on a sauvé de nombreuses vies. Il y a un médecin de la cellule médicale du refuge solidaire qui disait récemment les maraudeurs cet hiver ont sauvé plus de vies que moi dans toute ma carrière de chirurgien. Donc je trouve que c'est une belle image de ce qu'on a réussi à éviter. Après la mi-mars, il y a le... Oui, on a le droit, oui. À la mi-mars, il y a eu l'ouverture du refuge autogéré de Clavière. C'est un lieu qu'on a utilisé, en fait, pour que les exilés puissent s'autonomiser pour arriver jusqu'en France. À partir des informations qu'on pouvait leur donner, en leur permettant de passer, s'ils voulaient, plusieurs nuits à Clavière pour se poser, avec des gens qui étaient là pour s'occuper d'eux, pour leur donner des renseignements, et leur expliquer un peu ce qui les attendait en France. Ils sont toujours là d'ailleurs, effectivement, on les a entendus tout à l'heure. Ce qu'on constate, c'est que ça a plutôt bien marché au début, et que, après la marche du 22, qu'on a évoqué il y a quelques minutes aussi, la présence policière s'est renforcée et les exilés qui arrivent ne prennent plus des risques parce qu'il y a de la neige et pas qu'il fait froid, mais simplement parce qu'ils doivent éviter les contrôles de police, ils doivent passer de plus en plus loin dans la montagne, ils sont poursuivis, ils prennent la fuite, comme ils ne connaissent pas les lieux, ils partent un peu n'importe où, et ce qu'on constate, c'est que les gens arrivent actuellement à Briançon, au refuge solidaire, dans des états de fatigue, d'épuisement, avec des blessures qu'on n'avait pas cet hiver. C'est ce qui vraiment justifie notre présence sur le terrain. On a des gens qui arrivent régulièrement, qui ont passé plusieurs nuits en montagne, qui n'ont pas mangé ni bu depuis plusieurs jours. Donc l'idée, c'est de continuer à être là, parce que ces gens, il y a toujours des gens qui ont besoin de nous. Et il ne faut surtout pas qu'on baisse les bras, parce qu'il y en a qui se réjouiraient trop si on en arrivait là. On n'a pas envie de devenir les bons petits soldats qu'on voudrait faire de nous, qui ne portent plus d'attention à nos semblables et qui sont comme juste accaparés par notre quotidien. C'est important qu'on continue à faire ce qu'on a fait jusque-là et qui est complètement légitime.